Bonsoir, comment allez-vous? Cette semaine a été marquée par la mort de l'ancien président israélien Shimon Peres, prix Nobel de la paix 1994. C'était son truc à lui, la paix. Il y croyait et il aurait tellement aimé la connaître avant de mourir. Comme Nelson Mandela, ses gestes vers la paix ont parfois choqué son entourage. Faire la paix, nous sommes tous d'accord. Mais pactiser avec l'ennemi, oh ben non. Pourtant, avec qui faire la paix si ce n'est justement avec son ennemi? Sommes-nous décidés à faire la paix avec ceux qui nous pourrissent la vie depuis 2, 5, 10, 20, 30 ans? Parce que les blessures, c'est comme les tâches. Plus elles sont anciennes et plus c'est difficile à faire partir. Et même les plus pacifistes d'entre nous s'accordent à avoir un voisin avec qui ils ne feront jamais la paix. C'est juste impossible, c'est indicible, le débat est clos. De toute façon, ce n'est pas une personne sur 7 milliards et demi d'habitants sur la Terre qui vont changer le process. Eh ben si! Et c'est avec ce voisin-là, justement, qu'il faut faire la paix. Le voisin qui nous pourrit la vie, oui.
Oui, bonjour les petits bateaux. J'ai 14 ans et je m'appelle Rachel. Et je me demandais pourquoi les frontières des pays ou des régions, c'est jamais droit. Merci beaucoup, au revoir.
Rachel a envie peut-être de dessiner, je ne sais pas si on dit dessiner, des cartes. Christian Grataloup, vous aussi, vous êtes dans les cartes, vous êtes géographe, vous êtes géo-historien, vous êtes écrivain. L'invention des continents, c'est édité chez Larousse et puis vous avez surtout enseigné à l'Université Paris-Diderot ou bien encore à Sciences Po. Donc, la petite Rachel, rêve de frontière droite, si j'ai bien compris?
Oui, on voudrait que les choses soient bien carrées, Rachel. Hein. C'est parfois vrai, il y a des frontières droites. Regarde la frontière entre le Canada et les États-Unis, la frontière méridionale, parce qu'il y a aussi l'Alaska. Cette immense frontière, qui fait à peu près 6000 km, dans sa moitié est, elle n'est pas droite, parce qu'il y a les grands lacs. Bon. Mais dans sa moitié ouest, c'est une gigantesque ligne droite qui fait plus de 3000 km de long. Donc, il y a des frontières droites. De même, puisque tu parles des régions, si on prend les États fédérés aux États-Unis, il y a des États qui sont complètement rectangulaires, avec quatre lignes droites et des angles carrés. Alors, évidemment, c'est des États dans l'Ouest pas très peuplés, le Colorado ou le Wyoming. Il y en a qui ont beaucoup aussi de lignes droites, mais des petits bouts qui sont pas tout à fait droits. L'Utah, par exemple. Mais dans l'ensemble, on a beaucoup tracé comme ça dans un territoire qu'on supposait vierge, des lignes parfaitement droites. De fait, c'est lié aux colonisations. C'est-à-dire qu'on traçait sans savoir vraiment ce qu'il y avait, s'il y avait des rivières, des montagnes, et puis surtout sans tenir compte des populations qui pouvaient exister et qui avaient des territoires. C'est ainsi d'ailleurs que beaucoup de pays africains ont des portions de frontières qui sont très droites. Alors c'est très net dans le Sahara, on pouvait supposer que ça tranchait assez peu dans les territoires de population, mais c'est vrai dans beaucoup d'autres régions d'Afrique, parce que on connaissait pas bien ce qu'il y avait, et puis au fond, on se moquait un peu de ce que les populations locales pouvaient considéré comme leur territoire. Donc, on a tracé sur la carte, on a au crayon, ça s'est fait en particulier au congrès de Berlin en 1885. Les Européens se sont partagés l'Afrique comme un gâteau, en coupant. Ça. Et donc, évidemment, ça a donné des lignes droites et aujourd'hui, bien des problèmes géopolitiques entre ces frontières. Sinon, effectivement, il n'y a aucune raison qu'entre deux sociétés où on va suivre une rivière, où on va suivre une montagne, où on va aussi simplement tenir compte d'un rapport de force entre deux populations, de langues, des traités qui se sont passés, on ait automatiquement une ligne droite. Si on regarde comment s'est établie la ligne qui n'est pas fondée sur un repère naturel du nord de la France, on a tout ça dans les archives des affaires étrangères françaises, on a délimité ça village par village. Chaque fois qu'il y avait un traité, il a fallu faire une ligne à partir de la fin du XVIIe. C'est d'ailleurs les Français qui ont inventé la frontière linéaire. Avant,
ah oui,
c'était flou, les choses. Oui. Donc, on s'est mis à tracer. Ça a été un très gros travail de cartographie. Et là, on a effectivement suivi tel petit ruisseau, choisi que tel village s'arrêtait là, tel autre commençait là, avec de petites querelles locales à chaque fois. Et on a délimité une frontière qui, alors à ce moment-là, n'avait vraiment aucune chance d'être droite.
Christian Grataloup est donc géohistorien, professeur à l'Université Paris-Diderot et aussi à Sciences Po. Il a écrit « Géo-histoire de la mondialisation, le temps du monde » et c'est édité chez Armand Collin. Alors ce soir, dans les petits bateaux, nous saurons combien de litres d'eau on peut mettre dans un nuage. Nous saurons comment le judo est arrivé en France puisqu'il vient du Japon et comment font les écureuils pour retrouver ce qu'ils enterrent. Les enfants nous ont posé ces questions au 01 56 40 43 57.
Allô, bonjour, je m'appelle Laure. J'aimerais bien savoir pourquoi c'est un Français qui a inventé les hiéroglyphes. Au revoir, Et merci.
Bonsoir Laure, c'est une autre Laure qui va te répondre, l'historienne Laure Murat.
C'est grâce à l'expédition de Bonaparte, qui n'était pas encore Napoléon, qui était parti en Égypte avec une commission de savants, qui ont eu la très bonne idée, quand ils ont trouvé la pierre de Rosette, de faire ce qu'on appellerait un estampage, ce qui pourrait ressembler aujourd'hui à une photocopie, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ils ont mis de l'encre sur la pierre de Rosette directement, et ils ont appliqué ensuite une grande feuille de papier. Ce qui fait qu'on a eu comme une petite imprimerie, si vous voulez, et ils ont fait plusieurs exemplaires. Bien leur en a pris à ces savants, parce que Champollion, c'est là-dessus qu'il va travailler.
Depuis la France.
C'est sur ces documents-là. Parce que qu'est-ce qui se passe à la fin de l'expédition de Bonaparte? Les Anglais ont gagné, et ils réquisitionnent, ils prennent tout court, toutes les antiquités qui ont été réunies par les savants, dont la pierre de Rosette, qui va partir directement pour le British Museum. Et il y a une chose qui est assez amusante, c'est que Champollion n'est jamais allé en Angleterre, et il n'a donc jamais vu la pierre de Rosette.
Il n'était pas non plus en Égypte.
Alors, il est allé en Égypte, mais plus tard, et toutes ces découvertes, finalement, il les a faites grâce au travail considérable de tous ces savants, qui étaient environ 160, autour de Bonaparte, pendant 3 ans en Égypte. Et c'est grâce à ça, à la description de l'Égypte, qui va paraître ensuite sous l'Empire, qui va être le sommet, un sommet d'érudition sur cette Égypte qu'on connaissait finalement très mal, c'est là-dessus qu'il va travailler et qu'il va faire toutes ces découvertes.
Et voilà, merci à Laure Murat qui est maintenant professeure au département d'études françaises de l'université de Los Angeles. Vous savez, c'est la fameuse université UCLA, comme ce qu'il y a écrit sur les t-shirts qu'on a le droit de porter finalement si on a le t-shirt, même si on ne fait pas partie de cette université, c'est classe.
Sans personne, Florence, Milan, s'il y a le temps, week-end brutal, en bagnole de fortune, variette mélo, à la radio, week-end brutal, Paris est sous la pluie.
Week-end à Rome, c'était Étienne Dao. C'est vrai qu'ici, à Paris, on en rêve d'un week-end à Rome. Et peut-être qu'à Rome, il rêve d'un week-end à Paris.
Les petits bateaux sur France Inter.
J'ai une terrasse sur laquelle il y a des pots de fleurs. Et quand je rempote mes fleurs, dans les pots, je trouve des noix. Et je me dis, mais comment sont-elles arrivées là?
Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 5 ans et demi. Je voudrais savoir comment les écureuils font pour retrouver leurs noisettes qu'ils enterrent.
Bonjour Louis, quelle bonne question. Peut-être qu'il ne les retrouve pas, docteur François Moutou.
Écoute Louis, les écureuils, on pense qu'ils font des provisions pour la mauvaise saison, mais on pense en fait qu'ils oublient un peu aussi quelquefois les noisettes qu'ils ont cachées, ou les noix, ou les graines qu'ils ont enterrées. Et en fait, comme simplement ils se baladent souvent sur le même petit morceau de forêt, le même jardin, ils creusent un peu partout. Et ils finissent peut-être un peu par hasard par retrouver une partie de ce qu'ils ont caché. Mais l'intérêt, c'est que ce qu'ils ont oublié, si c'est bien enterré, ça peut germer.
On a l'impression service à l'arbre.
Que les écureuils, finalement, eh bien, ils font aussi du bien à la forêt parce qu'ils vont permettre, en déplaçant les graines, de leur trouver un petit coin tranquille. Et si lui l'oublie, eh bien, la graine, elle, n'oublie pas de germer. Et ça peut refaire un arbre qui, plus tard, pourra nourrir les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de l'écureuil qui a enterré la première graine.
Bien fait. Est-ce que l'écureuil a un odorat, docteur François Moutou?
Alors, c'est sûr que l'écureuil a un odorat. mais c'est vrai aussi qu'ils marchent à vue. C'est une espèce diurne. C'est pas tellement fréquent, nos mammifères diurnes dans nos campagnes, dans nos forêts. La plupart sont nocturnes. L'écureuil, lui, quand il fait nuit, il va se coucher dans son petit nid. Il a un nid dans les branches, qui le fait d'ailleurs, c'est lui qui le fait. Il est souvent d'ailleurs près du tronc, il est rarement au bout des branches. Et donc, il a à la fois une bonne vue pour sauter entre les branches, pas se tromper dans l'évaluation des distances, mais également, il est capable de reconnaître les graines qui sont mûres, qui ne sont pas mûres. Et on pense qu'une partie de ce qu'il retrouve en creusant, il le retrouve justement à l'odorat. Il creuse et il sent que soit son odorat lui, parce qu'il y est passé il n'y a pas très longtemps, sur l'odeur de la plante, de la graine qu'il a enterrée et qu'il va retrouver comme ça.
Parce que la noisette dans sa coquille, ça ne doit peut-être pas sentir énormément.
Non, mais d'abord, il n'enterre pas que des noisettes. Il enterre aussi parfois des champignons, il enterre un certain nombre de plantes, de végétaux qu'il a ramassés. Et donc ça, on sait qu'il a un peu d'odorat pour le retrouver. Et il faut penser que l'écureuil, c'est vrai, il enterre par terre, ce qui veut bien dire qu'il est arboricole, certes, mais en fait, il est souvent par terre. Et il passe une bonne partie de sa vie à se balader au niveau du sol et pas uniquement dans les arbres.
Ah, sur la terre, moi je pensais qu'il vivait que là-haut.
Non. Et toutes les cachettes qu'il utilise pour cacher ses noisettes et autres petites graines, c'est bien au niveau du sol, près des souches, sous la mousse. Et on voit souvent un écureuil se balader par terre.
C'est vrai. Et l'écureuil, l'hiver, il est dehors, hein, il hiberne pas.
Voilà, alors quand il fait vraiment très très froid, peut très bien rester plusieurs jours sans trop bouger. Il a son nid bien calfeutré avec des feuilles, avec un peu de mousse pour ne pas avoir froid. Ouais. Mais il ne peut pas tenir très longtemps parce qu'il a besoin de se nourrir un peu régulièrement pour tenir justement et surtout quand il fait froid pour dépenser des calories. Mais donc ce n'est pas du tout un hibernant. Par contre sa cousine la marmotte, puisque la marmotte est un écureuil finalement, un écureuil terrestre, mais elle depuis le mois d'octobre, elle dort tranquille sous la neige et dans les montagnes dans nos Alpes et elle va attendre le printemps, mois d'avril pour ressortir voir ce qui se passe dehors. Les écureuils ils mangent peut-être plus que les noisettes, les graines des conifères, des pommes de pin.
Les
et quand on regarde les pignons, quand on regarde une pomme de pin, à la base de chaque écaille, il y a une petite graine. Et c'est ça que l'écureuil va manger. Et c'est amusant de voir un écureuil dans un pin cueillir. Alors, il s'accroche par les pieds, il est pendu en suspension. Avec ses pattes avant et ses dents, il cueille la pomme de pin. Il se remet dans le bon sens sur la branche, parfois tout au bout du rameau. Et dans ses pattes antérieures, assis sur ses fesses, il tourne la noisette, la pomme de pin dans ses petites mains et il prend les petites écailles une par une et il mange les graines une par une. Alors il tombe en permanence en dessous de lui des écailles, des petits bouts de végétation. Ça fait du bruit parfois, on l'entend très bien. Et quand on le retrouve, si on ne fait pas de bruit, on peut passer une heure à regarder un écureuil faire son déjeuner. C'est assez rigolo à voir.
C'est vrai que c'est un délice que de regarder et d'observer un écureuil. Le docteur François Moutou, vous vous en doutez, est vétérinaire. Vous trouverez la liste de ses ouvrages sur le site des Petits Bateaux.
Bonjour, j'ai 14 ans. Qui a commencé à faire du judo en France puisque c'est japonais? Voilà, merci, au revoir.
Frédéric Le Canu, vous êtes un ancien judoka de l'équipe de France. Vous êtes maintenant le conseiller technique de judo auprès de la Fédération française. Êtes-vous français ou japonais d'abord?
Je suis français. Mon passeport est français. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance de beaucoup aller au Japon lorsque j'étais membre de l'équipe de France, 8 fois de mémoire. Et forcément, oui, c'est un pays qui me parle.
Alors, qui a commencé à faire du judo en France puisque c'est japonais, demande-t-elle?
En fait, dans les années 1900, il y a quelques Japonais qui sont arrivés en France pour parler un peu du jujitsu, puisqu'à l'époque, judo et jujitsu, c'était quasiment la même chose, puisqu'il n'y avait pas encore de forme sportive du judo comme ça l'est aujourd'hui. Donc il y a eu des émissaires comme ça qui sont venus prêcher un petit peu la parole du jujitsu.
Mais attendez, excusez-moi, si c'était pas sportif, c'était quoi?
Un sport, c'est une manière de pratiquer un exercice. On va dire qu'avec une vision anglo-saxonne, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on peut quantifier, comme par exemple une distance ou par exemple un métrage pour un lancer ou un temps pour un sprint.
Et qui dit sport dit compétition?
Qui dit sport dit compétition? Eh bien, en fait, c'était un art martial. Un art martial uniquement. Il n'y avait pas la forme sportive en tant que telle avec les compétitions qu'on connaît aujourd'hui et toute la réglementation sécuritaire surtout, qui aujourd'hui permet donc à chacun de pratiquer le judo dans de bonnes conditions. Et c'était forcément le jujitsu, judo-jujitsu, qui était enseigné dans les années 1900. Et en 1935, l'un d'eux donc est arrivé, monsieur Kawashi, qui lui, eh bien, a forcément beaucoup marqué puisque c'est lui qui a créé une méthode qui a permis donc aujourd'hui de pratiquer le judo comme on le connaît.
Un art martial, il y a art et il y a martial. Donc c'est quoi? Une philosophie mêlée à une créativité?
Oui, en quelque sorte, le principe fondamental d'un art martial, et ce qu'on doit garder dans le judo, c'est que, eh bien, on a une philosophie derrière. Vous savez, chez nous, on a un principe, c'est le principe Shin, Gi et Tai. Shin, c'est l'esprit, Gi, c'est la technique, et Tai, c'est le corps. Et c'est l'interpénétration de ces trois items qui est fondamental en judo. Il ne faut pas oublier l'esprit, ce qui en fait donc un art martial et pas uniquement un sport.
Alors, à propos de sport, ce week-end, le président du Comité international olympique, Thomas Bach, est venu à Paris pour une présentation du dossier de candidature de Paris 2024. Figurez-vous que les enfants, ils ont ouvert pour vous un concours pour dessiner leur carte de vœux. Trois cartes seront retenues. Les gagnants auront des cadeaux. Pour en savoir plus, eh bien, rendez-vous sur le site des Petits Bateaux. Voilà, c'était Nick Waterhouse sur France Inter, où vous écoutez Les Petits Bateaux, la bonne idée. C'est dimanche soir, qu'est-ce qui fait qu'un dimanche est réussi? Eh bien le temps, évidemment. Emmanuel Bocry, vous le connaissez au Petit Bateau, il est ingénieur météorologiste, directeur de l'unité média de Météo France.
Bonjour, je m'appelle Eugénie, j'ai 25 ans, et j'aimerais savoir combien il y a de litres d'eau dans un nuage. Merci.
Bonjour, c'est moi, Alix, toujours de 9 ans. Et j'aimerais savoir, pour la énième question de désolée, je ne sais plus là combien, quelles questions je pose, tellement j'en ai posé, et tellement vous ne m'avez pas répondu. J'aimerais bien savoir pourquoi les nuages flottent au lieu de tomber. Allez, au revoir, à bientôt.
Bonsoir Eugénie et bonsoir Alix. Nous avons entendu ta requête, Alix. Et oui, tu en as posé beaucoup. Vous êtes tellement nombreux à appeler que parfois il faut attendre. Tout vient à point d'ailleurs. À qui c'est attendre, Alix? Emmanuel Beaucry.
Bonjour Alix. Bon, Alix, on va répondre à ta question. Effectivement, tu fais une très bonne observation. Les nuages flottent, entre guillemets. Alors les nuages, il faut savoir ce que c'est. Ce sont des gouttelettes d'eau qui sont en train de tomber en permanence. Ces gouttelettes sont en train de tomber. Mais supposons qu'elle tombe à 2 mètres par seconde. Si tu n'as pas de vent du tout, eh ben les gouttelettes elles vont tomber jusqu'au sol, c'est de la pluie. Par contre, imagine que tu as un vent ce qu'on appelle vertical, qui va du sol vers le haut de l'atmosphère, et qui soit de 2 mètres par seconde. La goutte tombe à 2 mètres par seconde, mais il y a quelque chose qui la remonte à 2 mètres par seconde. Eh ben, elle flotte. On a l'impression qu'elle ne bouge pas. Alors, ça, c'est une première explication. Ensuite, il y a des choses qu'on ne peut pas voir, mais que l'on mesure, nous, météo. C'est-à-dire que quand on regarde un nuage, on a l'impression qu'il est immobile et qu'il ne bouge pas. En réalité, il bouge en permanence. Le truc qu'à faire, c'est de s'allonger sur le sol et de regarder les nuages. On va voir qu'ils bougent doucement. Mais si on va très près d'un nuage, on se rend compte de la chose suivante. Il y a des courants ascendants qui arrivent à toute vitesse, qui remontent beaucoup d'air. Cet air, c'est l'humidité qui se transforme en gouttelettes. Et au-dessus, il y a un courant qui évacue du nuage. Et là, ce sont les gouttelettes qui sortent du nuage, rentrent dans une zone qui est plus sèche et s'évaporent. Donc, disparaissent. Et globalement, on a l'impression de quelque chose qui est immobile, alors que ça bouge énormément.
Donc un nuage bouge tout le temps.
Un nuage bouge tout le temps. Et pour répondre à la question de Génie, un nuage, c'est très, 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 très lourd. Alors on va prendre deux nuages qui sont assez connus. On va prendre ce qu'on appelle, nous, le cumulus humilis. C'est le petit nuage que l'on voit de beau temps, mais tout petit. Hein, on parle de qui fait un kilomètre par un kilomètre pour moins d'un kilomètre d'eau. C'est rien du tout.
Ah, pardon ?
Un kilomètre de large par un kilomètre de long. Pour un kilomètre d'eau, c'est un tout petit nuage.
Ah, ça c'est tout petit.
Ça c'est tout petit. Alors, on a beaucoup plus gros. Et ce genre de nuage, il faut savoir que dedans, il y a quelques centaines de tonnes d'eau en permanence. Et maintenant, prenons le contraire.
C'est inouï
plus gros.
Ce que vous dites, mais c'est inouï, vous ne vous rendez pas compte. On a l'impression qu'un nuage, c'est quelque chose qui fait 20 cm de long et qui pèse le poids d'une plume.
Non, non, c'est très très lourd. Et je vais prendre le roi des nuages, entre guillemets, qu'on appelle le cumulonimbus. C'est un nuage d'orage. C'est un nuage qui est une espèce de gros chou-fleur qui monte. Mais alors lui, c'est le gros monstre. Ça fait plus de 10 km par plus de 10 km pour une quinzaine de kilomètres d'épaisseur. Et là, on est à quelques millions de tonnes d'eau. Et si on prend le poids complet du nuage, c'est-à-dire les gouttelettes d'eau plus la glace plus l'air, c'est de l'ordre de 1 milliard de tonnes de matière dans son ensemble.
Mais pourquoi il ne tombe pas ?
Parce que vous avez des courants ascendants qui sont très violents. Il faut bien comprendre une chose. Quand vous voyez un gros cumulonimbus qui va donner de l'orage, on voit bien la pluie qui tombe très très fort. Mais il faut bien l'alimenter. Si on ne l'alimente pas, au bout d'un moment, il va disparaître ce nuage. Donc vous avez en permanence des courants ascendants qui apportent beaucoup d'humidité, qui se transforment en gouttelettes d'eau ou en glace, qui font qu'on voit un nuage, et c'est une énorme machine. Un cumulonimbus, ça dépense une énergie qui équivaut à la première bombe d'Hiroshima, en permanence, chaque seconde. C'est une usine thermique énorme, monstrueuse.
Donc il se recharge en permanence, l'eau remonte.
Voilà, il faut bien voir ce que nous on voit comme quelque chose de paisible, qui bouge presque pas, ça bouge énormément à l'intérieur. À l'intérieur d'un cumulonimbus, il y a des vitesses de vent ascendantes extrêmement violentes, avec des courants descendants très violents, c'est pour ça que les avions ne veulent pas rentrer dedans. Parce que si vous rentrez dans un cumulonimbus avec un avion, vous faites grêler, la grêle vous arrive par le dessus, par le dessous, vous êtes foudroyé, il y a des courants dans tous les sens, et c'est l'enfer. C'est pour ça que les pilotes en ont peur et contournent toujours un cumulonimbus.
Bah, si ça fait 15 km, c'est pas rien de le contourner.
Bah, 15 km, c'est l'épaisseur de la couche atmosphérique, c'est l'atmosphère météorologique, ça fait à peu près l'épaisseur. Ouais.
C'est incroyable, en fait ça me fait penser aux fontaines municipales, quoi. L'eau sort, elle redescend, elle remonte, elle sort, elle remonte.
Et nous on voit que la partie où la vapeur d'eau se transforme en glace ou en eau liquide.
Ça fait un peu peur, non, de penser qu'on a ça sur la tête maintenant, vous me le dites?
Ça fait pas peur, ça rééquilibre en permanence les énergies à l'intérieur de l'atmosphère, ça apporte de l'eau, ça apporte la vie aussi.
Bien sûr que ça apporte la vie aussi, merci Emmanuel Beaucry. C'est terminé les petits bateaux pour ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert, merci à Marjorie Devoucoux, merci à Gaëlle Braouzek, merci également à Flora Bernard. Nous vous retrouverons dimanche prochain à 19h30. D'ici là, vous pouvez aller faire un tour sur notre site, bien évidemment réécouter l'émission ou bien la lire puisqu'elle existe en livre de poche. Pas celle-là, mais des plus anciennes, en livre de poche. Pour l'heure, je vous laisse avec Denis Chessou pour La Tulle, mon petit loup.